Il y a ces rencontres, ces moments de vie, ces moments de partage. Quand j'ai rencontré mon invité pour la première fois, jamais je n'aurais deviné ce que cet homme était. Parlez-moi de vous, c'est ça. C'est vous, c'est moi, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Je n'ai rien inventé, rien imaginé. Même le titre est simple. Simple comme deux personnes, mon invité et moi, derrière deux micros. Pendant une heure, je vais lancer le défi le plus compliqué à quelqu'un qui a parlé des autres toute sa vie. Parler de la sienne, sa vie, de son enfance à maintenant. Quel bilan tire cet ancien journaliste radio, metteur en scène et interprète sur son parcours, sur ses rencontres, ses anecdotes, ses fiertés et ses déceptions? Quelles étapes il y a eu entre son premier poste radio à la décoration de chevalier des arts et des lettres et sur le rôle de ses proches dans son parcours? Bienvenue dans Parlez-moi de vous, où chaque histoire est différente, mais mérite d'être racontée. Mon premier invité, et j'en suis très fier, Emmanuel Housset. Bonjour Manuel Husset.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être donc le parrain de cette émission. Ça me tenait à cœur de vous recevoir, car votre rencontre est un pur hasard, mais vous êtes une personne qui a une vie très remplie, avec une carrière magnifique. Vous êtes, je pense, du moins pour ma part, quelqu'un d'inspirant. Et c'est ce que j'ai à cœur avec cette émission, c'est mettre en avant des personnes comme vous qui parlent avec une vraie passion, une vraie sincérité de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils expriment. On va se vouvoyer, non, on se tutoie dans la vraie vie, mais là, radiophoniquement, on va se vouvoyer. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Mais c'est un plaisir, Théo, et c'est un privilège que d'être le parrain et le premier invité d'une telle émission.
On parlera des commodités tout à l'heure pour le parrainage, on verra en antenne. Pendant 30 ans, vous avez couvert l'activité culturelle sur Radio France et sur le réseau France Bleu avec l'émission Café des Artistes. 30 ans de radio et de journalisme, et pour vous citer, vous dites que le journaliste doit avoir le talent de ne parler que de celui des autres. C'est ce qui vous a guidé au long de votre carrière et qui continue encore de vous guider, c'est de surtout parler des autres.
C'est très important, je crois que si on aime ce métier, si on veut le faire avec cœur et passion, on doit avoir de l'empathie pour toutes celles et ceux que l'on rencontre. Alors j'ai rencontré, effectivement, vous avez parlé de culture, des gens très connus, talentueux, qu'ils soient français ou internationaux. J'ai rencontré aussi monsieur ou madame tout le monde. Il faut vraiment avoir envie de les mettre en valeur. Et pour mettre en valeur autrui, il faut savoir s'effacer et donner à la fois le temps et toute l'écoute nécessaire. C'est essentiel en radio.
Et que ce soit d'une personne qui ait une vie très très remplie, comme une personne lambda, comme vous dites monsieur tout le monde par exemple, qui a des choses peut-être plus lambda à raconter de la vie de tous les jours.
Oui, parce que chaque histoire, chaque récit est unique. Et il faut justement aller gratter, il faut rencontrer, il faut creuser, il faut aussi savoir mettre dans de bonnes conditions, il faut mettre à l'aise les personnes qui n'ont pas toujours l'habitude du micro. Donc il faut avoir un peu de temps de préparation, savoir les détendre, parce que c'est vrai que lorsque le rouge est mis, lorsque l'on est en direct, ça peut être impressionnant.
Il peut y avoir un certain stress. Mais aujourd'hui, on va faire l'inverse. C'est moi qui vais m'intéresser à vous et vous allez me parler de vous, Manuel Housset. Ça va aller ?
Oui, ça va aller. Effectivement, moi, j'aime bien poser les questions et être à votre place. Voilà, je vais jouer le jeu, effectivement, le jeu de la vérité et de, et de l'entretien décontracté.
Une sorte de fréquence star radiophonique. Hein.
Voilà, c'est ça.
Vous êtes né en 1960. Je me trompe pas.
Oui, c'est ça, le 23 juin 1960 à Paris, dans le 14e arrondissement.
Vous avez grandi, alors, en Loire-Atlantique, à Paris, dans la banlieue parisienne. La Loire-Atlantique, c'est important, on reviendra dessus tout à l'heure. Est-ce que le Manuel, enfant, c'était déjà celui qui s'intéressait à tout? Est-ce qui était curieux de tout, des autres? Est-ce qu'il avait déjà, en fait, les qualités d'un journaliste?
Alors ça, c'est difficile, hein, vraiment. Le coup d'œil dans le rétro, c'est important, mais c'est souvent difficile de parler de soi, et en particulier lorsqu'on remonte aussi loin. Ce que je sais, et ça aussi, c'est important pour ceux qui veulent faire de la radio ou qui ont envie d'avoir un pied dans le monde des médias, c'est la curiosité qui est une autre qualité indispensable. Il faut vraiment être, avoir ses antennes ouvertes, déployées. Dans mon métier, j'ai toujours eu, j'ai toujours avec moi un petit carnet pour noter les choses que je rencontre. Donc la curiosité faisait partie. Voilà, j'ai toujours été. Alors on dit la curiosité est un vilain défaut. Je ne pense pas. C'est une qualité. Après, il faut savoir la doser. Mais,
ouais.
Mais voilà. Mais dans nos métiers, c'est une dimension absolument essentielle.
La radio, le cinéma, la culture, c'est des aspects qui ont toujours eu une place importante dans votre enfance. Vous avez toujours été bercé par ces aspects-là.
Alors d'abord le cinéma. Vous avez parlé de Loire-Atlantique. Mon grand-père, lui, habitait à Saint-Nazaire. Ce sont les ports, c'est la dimension de l'ailleurs, de l'imaginaire. Voilà, le voyage. Et lui, mon grand-père, il a travaillé sur les compagnies transatlantiques, les paquebots, notamment le Normandie, qui était un paquebot mythique. Il a voyagé dans le monde entier et il était barman, donc il préparait des cocktails, notamment sur le Normandie, et il a rencontré les stars de son époque, hein. C'était Johnny Westmuller, Douglas Fairbanks Jr., Marie Pickford, donc il les voyait sur le Normandie. Il y avait une piscine olympique, il y avait même un théâtre où des pièces ont été jouées et créées uniquement pour le paquebot. Donc voilà, c'est ce grand-père qui m'a amené au cinéma pour la première fois, le dimanche après-midi. Et ce goût du cinéma, je l'ai acquis grâce à lui. Voilà, le premier film que j'ai vu, c'était Le jour le plus long.
Qui vous a amené le goût du cinéma, mais peut-être aussi des rencontres.
Aussi.
Étant donné que, voilà, on connaît la vie d'un barman qui peut rencontrer plusieurs personnes tout aussi différentes les unes que les autres. Donc le cinéma et la curiosité peut-être vient aussi de ce que vous a peut-être transmis votre grand-père.
Je pense, oui, et puis son ouverture et son regard éclairé sur les choses, tout en étant aussi plutôt timide. Mais c'est ce qu'on appelle le culot du timide. Moi aussi, je suis pas forcément très à l'aise, voilà. Mais voilà, il faut savoir vaincre un petit peu ses peurs et pour pouvoir aller au devant d'autrui.
Comment on explique qu'une personne qui on va pas se mentir, notre métier, c'est aussi une mise en avant, peut être aussi timide dans la vie privée.
Ben c'est simple. À partir du moment où vous avez un micro et où vous avez une mission, comme c'est le cas pour vous aujourd'hui, vous êtes dans un rôle. La vie, c'est souvent des jeux de rôle. Donc, dans cette mission-là, je dois partir à la rencontre de mes frères et sœurs humains. Je dois aussi réaliser une émission, poser des questions. Voilà, une émission de radio. Moi, j'avais un de mes maîtres en radio qui disait « La radio, ça se pense, ça s'écrit et ça se dit ». Voilà, donc on a l'impression, vous et moi par exemple, que c'est une conversation à bâton rompu, tout à fait naturelle, c'est ce que les auditeurs, on espère, vont percevoir, mais en fait il y a eu tout un travail avant. Vous avez préparé votre interview, il y a une trame, vous avez une introduction, vous avez des relances, vous avez ensuite une conclusion. Donc voilà, c'est très construit et ça doit paraître naturel. Donc pour quelqu'un de timide, ben, il faut en passer par justement cette écriture.
Et ce qui n'est pas forcément le cas dans la vraie vie, où quand on va chez la boulangère, on ne fait pas une trame pour acheter une baguette. Quoi.
Non, c'est
enfin,
sûr.
Normalement non.
C'est sûr. Et puis quand on est un petit peu timide, ben, des fois on n'a pas toujours la possibilité d'entrer en communication avec la boulangère. Mais si je dois aller faire une interview ou un petit micro-trottoir chez la boulangère, ben, là il n'y aura pas de problème.
On va revenir sur la Loire-Atlantique parce qu'il va se passer un événement là-bas qui va marquer peut-être le début de votre vocation. Si je vous dis Europe numéro 1, le jeu du code postal.
Eh oui, je me souviens un peu à la manière de Georges Perec de ce moment où j'avais accompagné mon père et où c'était un jeu qui lançait les codes postaux.
Il va falloir expliquer pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, parce que le jeu du code postal, même moi en préparant l'émission, je ne connaissais pas.
Voilà,
je suis désolé.
En fait, aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. C'est rentrer, vous écrivez une lettre, vous inscrivez le code postal pour qu'il arrive donc à destination. Or, il fut un temps où les codes postaux n'existaient pas. Le jeu auquel vous faites référence, c'était une façon de pouvoir le vulgariser sur les ondes d'Europe numéro 1. Et il y avait un jeu où, avec, il y avait même un facteur, il y avait un animateur d'Europe numéro 1 qui décrivait un peu le concept des codes postaux et où il fallait remplir donc sur une petite carte en mettant votre adresse et le bon code postal de la ville que vous habitiez. Vous mettiez ce petit bulletin dans une urne et ensuite il avait fallu procéder à un tirage au sort pour départager les éventuels ex aequo. Donc moi j'accompagnais mon père et j'étais un peu la main innocente qui allait tirer un bulletin, et j'ai eu cette chance incroyable, donc c'est vraiment de la chance.
De tirer votre bulletin.
De tirer mon bulletin.
Et donc il y avait deux gagnants, une personne un petit peu plus âgée à l'époque,
oui.
Et vous,
oui.
Qui était enfant et qui a gagné un transistor.
J'ai gagné un transistor, le transistor Europe numéro 1. Il y a même une photo où je suis avec mon petit transistor. Oh, je sais pas, je dois avoir 7-8 ans. Et je suis assez fier de ce poste de radio et puis d'avoir gagné ce jeu. C'est un jeu concours. Alors après, j'avais mis le bon code postal, ça c'est voilà, sur mon bulletin. Et puis après, j'ai eu la chance d'être tiré au sort par moi-même. Donc ça, c'est quand même assez unique.
Alors, on va dire que c'est le destin. Parce que je pense que c'est ce qui a amené votre vocation.
Je pense que la radio était déjà présente parce que on est dans une famille, mon père écoutait beaucoup la radio. Il écoutait les radios périphériques, effectivement, Europe 1 et RTL. Et donc ça fait partie, ça a baigné mon enfance, très clairement. Et puis après, ce jeu en a entraîné d'autres. Donc la passion est née comme ça.
Est-ce que vous l'avez gardé, ce transistor ?
Alors non, je ne l'ai pas gardé parce que c'était une antiquité. Et puis, enfin, au travers des décennies, qui a rendu l'âme. Mais je suis toujours passionné par les postes de radio que je collectionne un peu. Et puis chez moi, dans pas mal de pièces, il y a un poste de radio.
Qui traîne.
Exactement.
Vous partez ensuite faire des études et vous vous dirigez vers le droit, c'est ça ?
Oui, j'ai fait du droit, effectivement. J'étais à l'université de Sceaux. Et on dit, le droit mène à tout à condition d'en sortir. Voilà.
Et comment vous êtes arrivé du coup après derrière vers la radio, l'arrivée à Radio France, etc.
Alors c'est par le biais des radios associatives et ça c'est important de le préciser parce que elles jouent un rôle très important les radios associatives dans le paysage radiophonique français.
Pour beaucoup disent que c'est une sorte de tremplin aussi, hein, que c'est voilà, c'est ce qui permet d'arriver après sur des plus hauts statuts, on va dire.
Oui, ben ça permet de faire son apprentissage, son galop d'essai. Donc j'habitais à l'époque dans une ville de l'Essonne à Saint-Michel-sur-Orge où il y avait une radio associative RAS. Radio associative de Saint-Michel, enfin sacré gageur pour une radio qui s'appelait RAS. Alors au début, c'était des cibistes qui avaient créé cette radio. Alors je sais pas Théo, les cibistes, si...
Non, il va falloir préciser encore une fois.
Je vais préciser.
Crois.
Alors les cibistes, c'était en fait des ondes radio qui passaient, c'était essentiellement le monde des routiers qui permettaient donc de communiquer avec le monde un peu des radios amateurs grâce à donc un langage un petit peu codé, un jargon aussi très particulier. Donc c'était les cibistes qui avaient créé cette radio. Et puis après, très vite, des amateurs vraiment de radio ont voulu prendre la suite pour créer des contenus, pour proposer une grille des programmes.
Ouais, pour évoluer dans le... Dans...
Exactement. Et donc moi, j'ai intégré cette radio en présentant tout d'abord un magazine consacré à l'actualité du cinéma qui s'appelait Cinémaniac.
Donc passait... déjà, en tout premier, le cinéma, vraiment.
Le cinéma.
La première thématique dans votre premier pas dans la radio, c'était le cinéma.
Le cinéma, avec un magazine donc hebdomadaire qui durait une heure, beaucoup de bandes originales de films et puis des critiques, des interviews. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis on m'a demandé de prendre la tête de cette radio. Je suis devenu le président de cette radio associative. Alors à l'époque, les radios n'étaient pas... C'était la libération des ondes ne s'était pas faite, c'était donc ensuite il y a eu l'arrivée de François Mitterrand pour conquérir des fréquences pour que les radios deviennent légales. Donc ça a été toute une aventure parce que présenter une émission de radio, c'est une chose, mais devoir guider la destinée de cette même radio en étant le président, c'est autre chose. Mais c'était aussi, bien évidemment, très formateur.
Et dans une époque où on ne savait pas vraiment où allait le milieu radiophonique, on ne savait pas vraiment l'avenir qu'il allait avoir.
Exactement, c'était avant que les réseaux ne se constituent et que le paysage radiophonique ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu, bien évidemment, beaucoup de choses qui ont changé, mais les radios associatives doivent être soutenues. Elles sont aussi la garantie du pluralisme et de la démocratie. Et comme vous le disiez fort justement, elles permettent à de jeunes professionnels de pouvoir s'aguerrir.
On reviendra justement tout à l'heure sur votre rôle que vous avez envers les jeunes aussi qui se lancent dans ce milieu-là. On reviendra aussi sur l'évolution de la radio que vous avez donc connue. Elle existe encore, cette radio associative, où vous avez été le...
Non, elle n'existe plus. Elle était liée à la ville de Saint-Michel-sur-Orge, qui l'a beaucoup soutenue d'ailleurs, puisque c'était également, on organisait des soirées dansantes, on participait donc aux animations de la commune, et en particulier en direction des jeunes. Donc on a eu un beau compagnonnage avec la ville, mais malheureusement on n'a pas obtenu l'autorisation des maîtres, une fréquence officielle. Donc après ça a été un peu le jeu du chat et de la souris, on était menacé de saisie, donc il a fallu prendre un autre chemin, et je me suis dirigé vers une radio associative pas très loin, qui se trouvait à Bondoufle, qui s'appelait Radio Sortie de Secours.
Elle portait peut-être bien son nom pour le coup.
Exactement.
Et ce qui vous a amené jusqu'à Radio France, on va revenir justement sur cette période. Mais juste avant, on va écouter un titre que vous m'avez conseillé, que je vous ai même demandé. Ça s'appelle It Was a Very Good Year de Frank Sinatra. Pourquoi ce titre ?
Alors, tout d'abord, parce que Frank Sinatra est un artiste unique, surnommé The Voice. C'est ce qu'on appelle le roi du swing aussi, une voix de velours, une présence et un charisme impressionnant. C'est aussi un acteur de cinéma qui a obtenu un Oscar, l'Oscar du meilleur second rôle pour le film Tant qu'il y aura des hommes. Et puis It Was a Very Good Year, c'est une vie qui défile. C'est un destin. Donc quand on jette un coup d'œil dans le rétro, c'est important. Et Frank Sinatra, qui a enregistré ses albums au studio Capitol, avait cette particularité d'aimer être porté par son public. Donc il était avec un grand orchestre quand il a enregistré cette version, mais il y a aussi des spectateurs qui sont avec lui, qui sont autour de lui pour l'envelopper, pour l'entourer. On le voit d'ailleurs, il y a même un document, vous pouvez voir ça sur le net, où il conduit véritablement l'enregistrement de cette chanson et de l'album. Donc un artiste
multitâche,
fabuleux, oui, vraiment, et puis qui passe les années, voilà, hein, y a des artistes qui disparaissent, il est clair que ça fait partie donc du patrimoine mondial, et voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson.
On l'écoute et on continue de parler de vous juste après.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. Was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs, and clear. It was a very good year.
Manuel Housset, on parlait juste avant de votre arrivée dans le journalisme à Radio France. Vous avez couvert donc pour la radio de nombreux festivals cinématographiques. Il y a le Festival de Cannes, il y a le Festival Lumière. Vous avez interviewé aussi de nombreuses personnes du cinéma pour des occasions diverses. Comment s'est faite cette arrivée à Radio France et justement le fait que vous soyez un petit peu l'homme cinéma de cette radio?
Alors, il faut revenir au début de l'histoire. Alors, on parlait des radios associatives. Donc, lorsque j'étais sur Radio Sortie de Secours, SDS, j'ai, grâce à la maman d'un ami qui co-présentait l'émission de cinéma avec moi, elle est tombée sur une petite annonce du Figaro. Radio France recherche animateur-animatrice pour CDD, envoyer maquette à telle adresse. Donc j'ai préparé une maquette dans cette radio associative. J'ai fait ça sur un format d'une vingtaine de minutes. J'avais écouté un peu ce que les radios locales de Radio France faisaient.
Ce qui se faisait autour, ouais, bien sûr.
Exactement, notamment à Radio France Melun, hein, à l'époque. Et sur une vingtaine de minutes, j'ai fait cette petite maquette avec une météo, un agenda, une petite chronique culture, les annonces de disques. Voilà, c'est une maquette qui permet d'avoir un peu ce qu'une radio généraliste peut offrir sur un petit morceau représentatif. Et j'ai eu l'heureuse surprise de voir que cette petite maquette me permettrait d'être retenu pour les sélections nationales. Donc je suis allé ensuite à Strasbourg. Donc là, c'était Radio France Alsace. Et sur deux jours, j'ai participé donc à toute une série de tests, culture musicale, culture générale, interview. Fallait faire une auto-interview, se présenter. Il fallait donc présenter des disques aussi. C'était un peu dans le même esprit que j'avais fait auparavant, faire un petit journal de l'humour.
Donc il n'y avait pas que du cinéma, il y avait quand même d'autres petites chroniques.
Ah oui, il y avait beaucoup de choses. J'ai d'ailleurs pas fait de chronique cinéma là, parce que ça n'était pas demandé. C'était un petit agenda culture, la météo, annonce des annonces, et puis il y avait une présentation sous forme d'auto-interview et un petit journal de l'humour. Voilà. Et on avait toute latitude, après avoir fait les tests de culture générale, etc. On avait jusqu'au lendemain matin, on pouvait travailler toute la nuit pour enregistrer notre séquence qui durait à peu près 15-20 minutes.
Et donc après, comment ça se passe? Vous êtes retenu?
Alors déjà, quand on fait tout ça, on a beaucoup le trac et on est très tendu. Et j'ai reçu la réponse à l'époque avec un télégramme. Hein, c'était.
Et vous aviez quel âge à ce moment-là?
Moi, j'avais à l'époque, j'avais une trentaine d'années. J'avais un peu plus, ouais, je devais avoir 33 ans. Et j'ai reçu un télégramme qui me disait que j'étais retenu. pour participer. Il y avait à peu près 400 maquettes qui avaient été envoyées. Et il y avait deux sélections, une à Laval, une à Strasbourg. Donc 10 étaient retenus à chaque fois. Il y en avait que sur la vingtaine, on n'en retenait que 10. J'ai eu la chance d'en faire partie et une formation m'a été offerte à Radio France Melun pendant à peu près un petit mois pour m'aguerrir aux vertus du montage. Alors c'était un montage en analogique à l'époque, donc c'était avec des bandes, des ciseaux. Et ensuite j'ai renvoyé une petite maquette qui était l'issue de ces travaux de formation. Il y avait un poste qui était proposé à Grenoble, dans l'Isère. Je suis allé là-bas, et à nouveau des questions, des sélections. C'est comme ça que j'ai fait mes débuts à Radio France Isère.
Et donc après Radio France Isère, vous êtes allé sur plusieurs antennes de Radio France. Vous avez circulé un petit peu partout. Vous êtes resté vraiment sur
la même
antenne.
Je suis resté sur la même antenne. Alors c'était des contrats courts, c'était des CDD. J'ai fait d'abord l'été. Ensuite, j'ai été pris en septembre à décembre. Voilà, c'était des contrats très courts qui se renouvelaient. J'ai commencé d'abord comme généraliste. Je présentais les émissions matinales. Je faisais des reportages. Et puis 2 ans plus tard, en 96, on m'a proposé le poste de responsable de l'actualité culturelle. Voilà, et c'est comme ça que j'ai enchaîné sur la culture, avec quand même toujours présent à l'esprit. Cet attrait et cette passion pour le cinéma.
Et du coup, comment est venu le fait de couvrir tous les festivals de cinéma, tout ça, c'est venu de votre volonté à vous? Vous avez proposé d'amener vraiment le cinéma à l'antenne, ou voilà, c'est la direction qui vous a demandé de vous diriger par là?
En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que cette émission sur la culture, c'était d'abord une petite chronique. Il y avait une émission hebdomadaire. Et ensuite, à partir de 2003, j'ai proposé à la direction un magazine vraiment d'une demi-heure, qui est passé après à une heure, au quotidien, du lundi au vendredi. Donc, il y a une montée en puissance de la culture, avec un focus, puisque à Grenoble, il y a une actualité cinématographique importante. C'est une ville qui est très cinéphile. Il y a un campus universitaire. Il y a également aussi beaucoup d'habitants qui viennent de l'étranger. Donc, on s'intéresse beaucoup au cinéma, y compris cinéma international. Donc, c'est pourquoi moi, je me suis mis sur ce sillon. J'ai creusé un petit peu cette veine-là. Et ensuite, je participais au Festival de cinéma isérois. Après, je pense que la direction a vu quelle était à la fois mon appétence et peut-être mes compétences. Et ensuite, j'ai couvert le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, puis celui de Cannes, puis celui de l'Institut proposé par l'Institut Lumière à Lyon. Voilà, ça s'est fait de fil en aiguille.
Quel est le plus beau festival que vous avez couvert, celui que vous gardez en mémoire, qui vous laisse un souvenir impérissable?
C'est forcément le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est quand même l'événement au monde le plus important. Vous avez pratiquement entre 5 à 6 000 journalistes venus du monde entier qui le couvrent. Vous avez une salle qui est entièrement dédiée à la presse, les conférences de presse auxquelles vous participez. Vous pouvez vous lever la main, vous poser une question aux stars mondiales qui sont là. Moi, j'ai eu la chance de voir George Clooney, Brad Pitt, Sean Penn et Julia Roberts et beaucoup d'autres stars américaines, mais pas seulement. Et donc là, vous les avez face à vous, vous pouvez justement leur poser des questions, puis vous voyez des films. Moi, au Festival de Cannes, je voyais entre 40 à 50 films sur une dizaine de jours, donc ce qui vous permet d'avoir vraiment une vision panoramique du cinéma mondial. Et ensuite, lorsque vous le chroniquez au fil de l'année qui va suivre, vous avez déjà quand même un peu d'avance et pas mal de matière.
Quelle est votre plus belle rencontre dans le cinéma, l'acteur ou l'actrice que vous avez rencontré, qui vous a mis, comme on pourrait dire, une claque?
Alors moi, on va dire dans le cinéma mondial et américain que je citais, George Clooney était une très belle rencontre, parce qu'on voit, c'est un peu l'école américaine basée sur l'entertainment, complicité, humour, et puis vraiment la dimension empathique. Alors qu'il aurait, bien sûr, il reçoit la presse, il voit des, énormément de journalistes. Quand vous êtes avec lui, il y a cette dimension, il vous met à l'aise, il vous fait croire l'espace de quelques minutes que vous êtes la personne la plus importante pour lui. Voilà. Donc ça, ça a été une très très belle rencontre, incontestablement. Et puis après, si on réfléchit dans le dans le cinéma français, j'ai eu des rencontres assez étonnantes avec Isabelle Huppert, par exemple, qui reste la star du cinéma français, puis aussi avec une belle carrière internationale, pas toujours très simple, qui met en scène son passage à la radio et qui avec laquelle il faut du temps pour pouvoir.
Il faut travailler le personnage aussi.
Voilà, il faut créer le lien et la rencontre, mais ensuite les choses, il faut briser la glace. Hein, c'est comme dans toute rencontre et dans tout entretien, c'est absolument essentiel là aussi.
Vous continuez de vous rendre sur les différents festivals pour des raisons professionnelles ou simplement personnelles maintenant ?
Bon, les deux, parce que je vais dans les festivals pour présenter des films, pour animer des rencontres avec les équipes. Mais le plaisir du cinéma reste entier et c'est un plaisir personnel. De même que lorsque j'ai couvert ces festivals, les deux étaient mêlés.
C'est là où je voulais en venir. En fait, le plaisir professionnel que vous preniez était avant tout personnel. En fait, quand vous vous rendiez sur ces festivals-là.
Ben, quand on a la chance et le privilège d'exercer un métier comme le nôtre, c'est-à-dire que le temps défile, on ne compte pas le temps. Le temps, il est, vous arrivez la fleur au fusil le matin, vous repartez le soir, et vous repartez parfois pour aller voir les spectacles, pour aller voir des films, aller à des avant-premières. Donc vous avez une journée en termes d'amplitude qui peut paraître colossale, mais tout ça est passé en quelques secondes parce qu'on est pris par un moteur très puissant qui est celui de la passion.
Une passion aussi, il y en a une autre, vous avez été journaliste donc pendant 30 ans, mais également, au fur et à mesure de ces années, metteur en scène et lecteur récitant. C'est quoi un lecteur récitant ?
Alors un lecteur récitant, c'est vrai que j'ai voulu passer du côté des artistes, parce que j'en ai rencontré tellement, parce que là on parle beaucoup de cinéma, mais dans le monde du théâtre, dans le monde de la chanson, dans le monde de l'humour, parce que la culture c'est un spectre très large, donc je les ai rencontrés à différents moments de la journée. Parfois j'allais dans les théâtres en coulisses, parfois c'était après le spectacle, certains étaient en direct dans le studio, donc j'ai pu mesurer comment, lorsque le soir ils avaient une représentation, soit un concert, soit une scène à incarner, comment toute la journée était conditionnée par le point,
par le point final, voilà, et l'adrénaline qui pouvait monter aussi au fur et à mesure de la journée.
Absolument. Et certains étaient très à l'aise avec ça, d'autres pas du tout, parce qu'il y avait quand même cette, ce moment où il fallait faire converger l'actualité de la journée et puis la concentration nécessaire. Donc je me suis dit, j'aimerais bien connaître ça moi aussi, cette bouffée d'adrénaline, ce moment très fort, ce point culminant. Donc j'ai d'abord été lecteur récitant d'une nouvelle de Maxence Fermine qui s'appelle Billard Blues et qui raconte la rencontre entre le champion du monde de billard dans les années 30, au moment de la prohibition, et du gangster Al Capone. Ils vont se rencontrer dans un club de billard. C'est un jeune guitariste qui en est le témoin, un guitariste de blues, et qui raconte cette partie de billard entre les deux. Et donc j'ai adapté cette nouvelle avec un trio de joueurs de jazz qui ont créé une bande originale. Et moi je raconte, lecteur, c'est-à-dire parce que je lis le livre, mais en étant le lecteur récitant, c'est-à-dire je lis et j'incarne cette nouvelle de Maxence Fermine qui dure à peu près, musique comprise, une heure dix.
Ouais, ça, faut donner vie aussi à cette lecture. Il ne faut pas simplement être le lecteur comme un livre audio qu'on pourrait écouter. Il faut donner vie aussi et incarner aussi ce personnage. Justement, c'était aussi ce que vous aviez besoin, c'est de créer un rôle juste pour vous, de créer quelque chose pour vous.
Oui, créer, parce que c'est là on est dans le spectacle vivant. Il y a quelque chose qui se crée, qui est unique, c'est le temps de la représentation. Donc j'avais envie de me confronter à ça, mais j'avais envie aussi de le partager, pas être seul sur scène, d'avoir un trio avec moi. Donc il y avait trompettiste, batteur et clavier. Et c'est une belle aventure. On l'a fait en tournée. On l'a d'abord créé au Grenoble Jazz Festival, puis on l'a fait en tournée. On l'a interprété, incarné dans différents lieux, et ça a été très très précieux de pouvoir le mettre en œuvre. C'était mon épouse qui au moment où je cherchais justement un texte, qui avait lu cette nouvelle et qui m'a dit bah, ça c'est peut-être une bonne idée pour que tu puisses passer la rampe. Voilà, ouais. Exactement.
Alors actuel, si on veut voir Manuel Housset sur scène, c'est plus possible ? Ou
non,
ce sera bientôt possible ?
C'est plus possible parce que pour l'instant, c'est un peu en jachère tout ça, mais j'ai envie d'y revenir, notamment par le biais de textes, puisque après Billard Blues, j'ai fait d'autres spectacles. Il y en a eu un, Louisiana Stories, c'était les grandes voix de la musique noire avec des portraits. Donc j'ai envie. Après, il faut retrouver un texte et il faut le vivre aussi et le partager avec d'autres. Mais ça fait partie de mes projets.
Mais c'est encore une fois une sorte d'acting. Alors pourquoi pas peut-être un jour Manuel Housset au cinéma aussi. Après avoir été pas derrière la caméra, mais un rôle dans l'ombre. Pourquoi pas un jour devant la caméra.
Alors j'ai fait quelques courts métrages avec un collègue journaliste donc de l'Isère. Donc j'ai participé à quelques courts-métrages, d'abord en faisant une petite voix off d'un personnage manipulateur au téléphone qui dans une sombre machination et thriller politique.
Il faut puis donner les noms à l'antenne qu'on puisse aller les retrouver, parce que si un jour on voit dans les enfants de la télé, ce sera important de les passer quand même.
Voilà, c'est ça. Oui, ben le collègue journaliste s'appelle Pierre Guéry, c'est lui qui en assure la mise en scène. Et puis, vous pourrez retrouver tout cela, effectivement, sur les réseaux sociaux ou sur le site Vimeo. Après, j'ai fait il me voit souvent dans des rôles de méchants. J'ai fait le rôle de Lucio, une espèce de mafieux italien, voilà, ou un trafiquant de truffes, voilà.
Mais il y a toujours ce qu'on dit, c'est qu'on donne les rôles les plus méchants aux gens les plus gentils. Donc, c'est peut-être bon signe.
Peut-être que c'est ça, peut-être, mais comme il me voit peut-être de cette manière-là, il faudra lui poser la question.
Une contribution culturelle sur plusieurs facettes, et notamment celle de l'apprentissage, aussi de la transmission de savoir, et surtout, depuis 12 ans, où vous êtes à l'initiative de la création, c'est pour ça que tout à l'heure que je disais créateur, du certificat de qualification professionnelle d'animateur radio, c'est mis en œuvre par l'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel. Là aussi, c'est avant tout l'aspect de transmettre, de partager aussi votre passion et ce qui a amené aussi votre métier.
Même réponse, c'est la passion qui m'a guidé et la transmission. Découvrir, transmettre, partager, que c'est au départ c'était la culture, le cinéma, mais je me suis dit que ce métier, j'ai pas été le seul, on a été plusieurs, nombreux, à se dire que bah, il faut essayer de faciliter le passage de relais. Radio France est une belle maison. Il y a 4500 personnes qui travaillent pour réaliser au quotidien les antennes, les contenus de programmes. Et il y a les renouvellements générationnels, par exemple. Moi, je fais partie de la génération de la bande FM. Voilà, aujourd'hui, une partie des pionniers ou des créateurs sont en train de soit de passer la main, soit de prendre leur retraite. Il était absolument important pour moi de me dire que ben, il y avait des jeunes générations. Et ça n'existait pas. Le CQP, Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Radio, Animatrice Radio, n'existait pas. On l'a créé avec, vous l'avez cité, l'INA, qui est l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est un partenaire très important. Et on a créé le cahier des charges, comment se former à ces métiers. Souvent, c'est de manière empirique. Donc là, il y a une formation sur un petit peu moins d'un an qui se fait en alternance, c'est-à-dire à la fois dans des radios locales associatives ou d'autres, ou des radios locales privées, ce qui permet d'avoir la partie théorique à l'INA, mais aussi un peu pratique. Et puis après, de mettre en œuvre dans la radio ce qu'on a appris et au bout du compte, obtenir ce diplôme qui a une valeur qui est reconnue par l'ensemble de la profession. Et c'est ça aussi qui est une dimension essentielle.
Et apprendre aussi l'évolution de la radio. Justement, on parlait tout à l'heure de votre début dans une radio associative. Comment vous avez vu l'évolution qu'a pu avoir la radio et notamment maintenant avec ce qui se passe dans le service public?
Alors, très clairement, moi j'ai commencé, je vous le disais, lorsque c'était donc des bandes magnétiques dont il fallait apprendre le montage avec des ciseaux. France Bleu Isère a été la première radio du groupe Radio France à être numérisée en 1999. Donc là, on est passé complètement donc au format numérique, c'est-à-dire que les Nagra à bande sont devenus des Nagra numériques. On avait un logiciel de montage. Donc ça a été une véritable révolution. Et puis ensuite, on a vu arriver aussi les contenus enrichis avec les illustrations photos, les vidéos, les podcasts aujourd'hui. Donc, j'ai vu tout ça et avec bonheur, parce que lorsque vous faites une émission, vous préparez la dimension radio telle que nous le vivons aujourd'hui, mais ensuite il y a des photos qui peuvent montrer les invités, éclairer les coulisses. Vous faites une petite vidéo. Moi, j'ai fait beaucoup de formats de ce genre et notamment le cinéma s'y prête parfaitement parce qu'on peut imager ce que l'on écoute à la radio donc c'est le complément naturel et qui est devenu incontournable aujourd'hui. On ne peut pas se passer de ces nouveaux formats.
Et quel est l'avenir de la radio ?
La radio aujourd'hui, vous le savez, elle est en difficulté. Parce que
pour beaucoup, c'est fini.
Non, je ne pense pas que la radio soit finie. Les écoutes le montrent, notamment on parlait du groupe Radio France avec France Inter qui est la radio numéro 1 et qui caracole en tête.
Depuis peu, mais qui le reste.
Qui le reste et qui a su justement opérer le renouvellement générationnel des animateurs, des présentateurs, la façon aussi de parler au nouveau public, les podcasts qui sont un succès aussi. Alors il faut du contenu. Il faut que les contenus soient élaborés et enrichis. Si on a des contenus ambitieux, je pense qu'on y parvient. Moi, effectivement, il y a les plateformes musicales qui sont de redoutables concurrents. Il y a tout ce que l'on voit. Il y a aussi tous les fournisseurs d'accès. Deezer, Spotify. Vous avez les plateformes aussi Netflix. Tout ça, c'est du temps de cerveau disponible qui est occupé. Mais je pense que la radio nous accompagne dans le quotidien. En plus, on peut écouter la radio et faire autre chose. Je pense aux matinales notamment, qui restent la vitrine phare des radios.
Des radios, bien sûr.
Et j'espère que la radio le restera. Au début, on avait dit que le cinéma allait mourir avec l'arrivée de la télévision dans les années 50. Le cinéma, alors aujourd'hui, il est en difficulté lui aussi avec la pandémie mondiale et des entrées qui sont en chute de 30%. Mais je pense que le cinéma, lui aussi, a encore de belles années devant lui. Il faut l'espérer, il faut le souhaiter.
Récemment, vous avez reçu une récompense aussi, une décoration. Manuel Housset, vous êtes chevalier des arts et des lettres.
C'est exact, Théo.
Ça fait quoi ?
Ça fait plaisir parce que je crois que c'est une reconnaissance d'un parcours... d'une histoire. Alors, cette reconnaissance, c'est le ministère de la Culture, puisque c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Moi, j'ai appris ça il y a deux promotions dans l'année. Il y a
et comment vous l'avez appris, justement ?
Je l'ai appris par hasard. C'est le directeur territorial de Radio France qui m'a passé un coup de fil pour toute autre chose et qui m'a dit qu'il avait vu au journal officiel, parce que la liste paraît au journal officiel, il avait vu mon nom et il me félicitait. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appris. J'allais prendre le TGV à Paris. Donc ça, c'est une grande surprise, mais c'est aussi une grande fierté parce que la médaille des arts et des lettres, lorsqu'on est fait chevalier, pour quelqu'un qui a été un journaliste culturel, comme vous l'avez rappelé pendant 30 ans, ça a du sens. ça a du sens pour moi. J'ai été très fier d'avoir cette récompense. Et en plus, elle m'a été remise par un de mes confrères qui a fait un petit discours de ce qu'on appelle un compliment, et qui s'appelle Olivier de Lagarde, qui est un journaliste que vous connaissez peut-être, qui travaille sur France Info, à la fois la télé et la radio, et qui a fait un discours qui a retracé en quelques moments la carrière qui a été la mienne.
Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce qu'est être chevalier des lettres, c'est un ordre qui est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apporté au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. En fait, vous avez participé à tout ça.
Oui, mais alors c'est moi qui reçois cette récompense, mais elle est destinée aussi à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné sur ce chemin, qui ont cheminé à mes côtés, que ce soit mes collègues de la radio, que ce soit tous les artistes que j'ai eu la chance de rencontrer, d'interviewer. Je suis aussi président d'une association, Les Amoureux de la Place de Metz, à Grenoble-en-Isère, dont le but est de créer du lien entre les habitants, les commerçants. Donc voilà, cette récompense, il y a un petit bout de cette médaille qui est destinée à chacune et à chacun, et puis bien sûr aussi à mon épouse et à ma fille, qui sont à la fois mes muses et qui sont le moteur magnifique de mon existence.
Et qui ont contribué à leur manière à la réussite de tous les projets que vous avez pu mettre en place.
Bien sûr.
Manuel Housset est mon invité à l'occasion de cette première de Parlez-moi de vous. On va écouter un deuxième son, maintenant le dernier titre de cet entretien que vous avez choisi, c'est lequel ?
Alors, c'est une chanson récente qui est extraite d'un album qui s'appelle Éphémère. On a pris le temps et c'est à la fois Grand Corps Malade, Ben Mazoué et Gaël Faye, donc qui interprètent sous forme donc de trio. On a pris le temps, on parlait du temps. Le temps, c'est c'est Chronos, c'est un peu le dieu de la radio parce que vous le savez, hein, Théo, il faut une émission, il y a un timing. Lorsqu'on l'a fait en différé, il faut que ça soit très très précis en termes de timing, en direct encore plus. Il faut rendre l'antenne, il faut présenter le journal qui arrive pile à l'heure. Donc le temps est une obsession, et dans une vie, le temps file, le temps aussi permet de mesurer le chemin parcouru. Donc le pourquoi de cette chanson, très belle. En plus, c'est à la fois du slam, il y a une dimension rappée, chantée, donc très belle mélodie et ce trio harmonieux m'a beaucoup séduit.
On écoute tout de suite, on a pris le temps et on revient juste après.
J'ai pris du temps pour mon métier, j'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait. Jusqu'à étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait là. Et j'aimerais souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille blanche. Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Elle a, au milieu du monde, elle a, allongé les secondes, elle a, on a pris le temps.
J'ai pris rencard chez le docteur, chez le coiffeur, chez le véto. Hier j'ai éteint très tard, aujourd'hui je me suis levé tôt. J'ai pris ma douche, j'ai pris la mouche, j'ai pris la route, mes affaires. J'ai pris le train, le taxi, j'ai trop pris, j'ai pris cher. J'ai pris mon fils par la main pour s'affêter son tournoi. J'ai pris le courage à deux mains, le mal de tête c'est pour moi. J'ai pris mes doutes enfouis sous les t-shirts dans ma valise. J'ai pris le tourbus dans une ambiance que souvent j'idéalise. J'ai pris du retard dans ma journée, dans mon planning, dans mon sommeil. J'ai pris de l'avance sur la fatigue, mais pas vraiment sur le réveil. J'ai pris une allure, une cadence, un rythme entêtant, mais c'est vrai. J'ai pas pris le temps depuis longtemps.
Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause, d'un répit. Du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit. Au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche.
Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, allongé les secondes, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, allongé les secondes, on a pris le temps.
On vient d'écouter, on a pris le temps, mon invité est Manuel Housset à l'occasion de cette première émission Parlez-moi de vous. Vous avez pris le temps dans votre vie, Manuel ?
Pas toujours. Pas toujours parce que j'ai justement été dans une dimension un peu dévorante. On l'évoquait, quand vous présentez une chronique, un reportage le matin à 8h40, vous terminez votre émission le soir à 19h, hein, mon magazine c'était 18-19h, alors avec beaucoup de reportages, beaucoup de choses, ben vous le savez, c'est votre quotidien aussi Théo, ben on court. On court beaucoup, on doit voir les films, on va au spectacle le soir. Tout ça se reprend dès le lendemain matin. Donc pour être à 8h40 et présenter son, on doit être là à 7h. Ouais, donc ça avant, veut dire ouais. Que les nuits, et bien avant, les nuits sont courtes. Quand on fait des micro-trottoirs, on doit avoir fait le montage en rentrant après le spectacle. Donc c'est une spirale un peu infernale. Et à certains moments, vos proches peuvent vous faire sentir que il faudrait peut-être arrêter un peu ce tempo assez démoniaque.
C'est ce qui vous a été un petit peu reproché.
Disons que des reproches. Il y a un moment où je me suis dit c'était beaucoup. Voilà, j'ai fait de la télé aussi pendant 6 ans. J'ai présenté un magazine cinématographique. Donc radio, télé, les rencontres avec les artistes le soir, ça a été un moment éprouvant. Je ne regrette rien parce que vous voyez, je voulais faire de la radio. J'ai fait de la radio, j'ai fait aussi du spectacle vivant, j'ai fait de la télévision. Donc c'est un parcours un peu accompli et qui m'a beaucoup enrichi. Mais avec un temps qui se rétrécissait, parfois consacré aux proches, et c'est ce que je regrette aussi quand même, et notamment vis-à-vis de ma fille et de ma femme, il y a eu des moments qui étaient un petit peu tendus.
C'est du temps que vous pouvez un petit peu maintenant rattraper, vous avez un petit peu plus de temps pour vous. Vous allez toujours au cinéma,
j'imagine? Oui, je vais toujours au cinéma et je vais 2 à 3 fois par jour au cinéma.
Donc. Tout à l'heure, on parlait de l'évolution de la radio. Quel est votre point de vue sur l'évolution du cinéma maintenant ?
Je pense que le cinéma, il est à un moment important de son existence. Il n'a pas retrouvé les chiffres d'avant la pandémie, je le disais. 30% d'entrées en moins. Donc il faut revoir, à mon avis, la politique de l'offre, et en particulier dans le cinéma français. Il y a beaucoup de films qui se montent, pas forcément pour de bonnes raisons artistiques, mais pour des raisons à la fois techniques et financières, sur des cachets de stars, sur des films dont les scénarios sont un peu légers, pour ne pas dire inconsistants. Donc lorsque vous êtes jeune aujourd'hui, et que vous allez au cinéma, vous tombez sur une comédie française qui relève de la culture du navet, pour être très clair. Vu les tarifs pratiqués, vous ne retournerez pas avant un bon moment. Donc il faut revoir ça. Je pense qu'il faut peut-être aussi se pencher sur la question tarifaire du cinéma.
Et s'adapter au...
Voilà, pour redonner une dimension populaire donc au cinéma. Après, le cinéma d'arrêt-essai se porte plutôt bien. Les deux succès de l'été, que ce soit La Nuit du 12 ou aussi Asbestas, une coproduction franco-espagnole, ont montré que dans ce registre-là, les spectateurs répondent présents, justement avec des films ambitieux qui offrent du contenu. Donc voilà, il faut revoir, je pense, il y a beaucoup de films qui sortent. Vous avez entre 15 à 20 films nouveaux chaque semaine qui sortent. Donc vous, en tant que critique de cinéma, vous ne pouvez pas tous les voir. Et je pense que dans cette offre-là, il y a peut-être certains films qui devraient être produits différemment ou avec une approche autre.
Et les nouvelles plateformes Netflix, Amazon Prime, on valide ou on valide pas ?
Ben, je pense que quand on aime le cinéma, moi je regarde sur Netflix ou sur d'autres plateformes, je regarde beaucoup de films parce que ça permet de voir certains films qui ne sortent que sur ces plateformes et pas ailleurs. Hein, et qui sont signés par des grands maîtres de l'histoire du cinéma. Je pense à David Fincher, voilà, à Alfonso Cuarón. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont une liberté artistique totale et des budgets assez conséquents. Alors après, là, il y a aussi dans cette plateforme, à mon avis, il devrait y avoir un véritable rôle de producteur, c'est-à-dire le producteur qui a un regard sur le film et la façon dont il est fait, parce que d'avoir carte blanche en termes de budget, en termes artistiques, c'est pas forcément la meilleure chose
à faire. La meilleure solution, ouais.
Voilà, il faut aussi avoir des garde-fous et des contrôles pour justement essayer de livrer le projet cinématographique le plus abouti et le plus ambitieux. Donc oui aux plateformes, parce que c'est comme pour tout, hein, plus vous avez de boulangers, plus vous pouvez acheter de pain, plus vous avez de cinéma, plus vous allez au cinéma, plus vous avez des films qui peuvent être vus sur différents moyens, plateformes ou autres, et plus vous irez au cinéma, il me semble.
Il nous reste 5 minutes avant de finir cet entretien et j'aimerais le clôturer avec une sorte de dos à dos, mais en face à face, à l'image de Thé au Café. Vous voyez l'image un petit peu ? De quoi je veux parler ?
Oui, je suis tombé de temps en temps sur cette émission télé qui n'existe plus d'ailleurs, mais vous pouvez peut-être me rappeler le concept.
Des questions rapides,
des réponses rapides.
Et des réponses brèves.
Alors, on y va, c'est parti.
Vous êtes prêt ?
Je suis prêt.
Votre film préféré ?
Alors, mon film préféré, c'est celui de mon enfance, je l'évoquais tout à l'heure, Le jour le plus long de Daryl Zanuck sur le débarquement.
Votre acteur préféré ?
Ah, ça, c'est une question qui est pas simple parce que j'en ai beaucoup, mais je vais le citer, c'est George Clooney, parce qu'il est à la fois, c'est un peu le Cary Grant, Gary Cooper des années d'aujourd'hui.
Votre film préféré de George Clooney ?
Alors c'est Good Night and Good Luck, pendant la période du McCarthyisme, les années noires, où on voit Ed Murrow, qui était un présentateur célèbre, qui présentait une émission dans la télé des années 50, qui était un peu un magazine d'infos sur un format de 50 minutes, à la fois des sujets people, puisqu'il pouvait recevoir Marilyn Monroe, mais aussi il faisait des enquêtes approfondies sur l'armée américaine et sur des scandales potentiels.
Votre actrice préférée ?
Alors, mon actrice préférée, ben, là aussi, très simple, c'est Marilyn Monroe. À la fois pour le glamour qu'elle présente, et puis aussi pour la femme indépendante, la féministe avant l'heure, qui avait créé sa propre société de production.
Votre plus grande peur ?
Ben, c'est de voir ses proches disparaître, et en particulier ma femme et ma fille.
La dernière fois que vous avez pleuré ?
Alors, je suis assez émotif et au cinéma, ça m'arrive assez souvent, voilà, devant un film prenant, voire un mélodrame.
La dernière fois que vous avez ri ?
Alors là, c'est plus, c'est moins souvent. Alors la dernière fois que j'ai ri, c'était en compagnie d'amis marcheurs et randonneurs.
Votre plus grande fierté ?
Eh bien, vous l'avez évoqué, ma plus grande fierté, c'est cette médaille de chevalier des arts et des lettres.
Votre livre de chevet ?
Alors, un livre que j'aime beaucoup, c'est Le Guépard.
Votre rêve le plus fou ?
J'ai accompli une grande partie de mes rêves les plus fous. Ça serait de me retrouver à Hollywood et de passer une journée complète avec Brad Pitt.
Le film pour passer une soirée entre amis. George Clooney va être jaloux. Je réagis avec un peu de retard.
Oui,
mais
oui. Il va être jaloux. Alors le film préféré pour passer un bon moment.
Et ben entre amis, ouais.
Entre amis, ben j'aime bien, j'adore Jean Gabin. C'est aussi un acteur fétiche dans le registre du cinéma français. Et celui que j'aime beaucoup, c'est Un Singe en hiver. Parce que c'est ça, c'est le passage de relais, Belmondo, Gabin, et puis le partage d'une belle histoire et d'une belle aventure.
Le film pour une soirée en amoureux.
Alors, soirée en coup de foudre à Notting Hill.
Et enfin, Manuel Housset, votre mot préféré.
Alors, mon mot préféré, c'est aimer.
C'est ce que vous avez fait tout au long de votre vie?
Aimer ses proches, aimer tous celles et ceux avec lesquels on va passer un moment, que ce soit la radio ou autre, c'est essentiel.
Merci beaucoup, Manuel Housset.
Merci Théo pour cette invitation et cette première de cette émission à laquelle je souhaite toute la réussite et, pour reprendre aussi un titre de chanson, tout le bonheur du monde.
Et merci de l'avoir accepté, cette invitation. Ça me tenait à cœur de vous recevoir. C'est jamais simple pour moi de recevoir des personnes que je connais, parce que je trouve que c'est compliqué de s'adresser à des personnes qu'on côtoie dans la vie privée, plus ou moins, mais ça me tenait à cœur de vous mettre en avant et de parler de vous. Merci beaucoup.
Un grand merci.